Voilà, ce matin, nous poursuivons notre série sur le prophète Élie, où nous allons aborder la deuxième partie de son séjour à Sarepta. Sarepta, ville phénicienne où Dieu a envoyé son prophète avec la promesse de pourvoir à ses besoins par l'intermédiaire d'une veuve. Et nous avons vu la dernière fois que c'est précisément ce que Dieu a fait en accomplissant un miracle, puisque le peu dont disposait cette veuve sera toujours suffisant, miraculeusement suffisant. Et c'est ainsi qu'Élie va rester à Sarepta pendant un certain temps qu'il ne nous est pas possible de définir précisément. Ce que nous savons, c'est que la sécheresse va durer en tout 3 ans et demi, et que l'épisode de ce matin est le dernier, en tout cas dont l'Écriture parle, avant qu'Élie ne retourne devant Akab. Nous pouvons donc raisonnablement penser que bien des mois, voire 1 an, peut-être 2, se sont déjà écoulés depuis le commencement de la sécheresse et de la famine qu'elle a induite. Ce qui va se passer ce matin dans notre texte correspond à une parole que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 35. Vous le savez, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est comme une galerie des héros de la foi de l'Ancien Testament. Et nous y trouvons la rengaine « par la foi ». Ils marchèrent par la foi, qui souligne que ces hommes et ces femmes ont effectivement marché par la foi. Et c'est ainsi qu'après avoir parlé d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, des parents de Moïse, des Israélites et de Rahab, on a fait quelques siècles d'un coup, l'auteur écrit ceci. « Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils reprirent des forces après la maladie, ils se montrèrent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. » Et puis, on arrive au verset 35. « Des femmes virent leur mort ressuscitée et leur être rendue. » Des femmes virent leur mort ressuscitée et leur être rendue. Il est question ici de résurrection des morts, et c'est bel et bien ce qui va se passer dans notre passage, dans la deuxième partie du séjour d'Élie à Sarepta. Je vous invite à lire, à suivre la lecture ou à lire dans vos Bibles. Nous sommes dans le premier livre des Rois au chapitre 17 et je lis les versets 17 à 24. 1 Roi 17, 17 à 24. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, qu'ai-je faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis Lot en faisant mourir son fils ?» Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Le premier point que j'aimerais aborder avec vous concerne la mort du fils de cette veuve de Sarepta. Et force est de constater que cet enfant, dont on ne connaît pas l'âge, a eu une vie difficile. Il était sans doute très jeune, bien jeune, quand il a perdu son père, entraînant une vie difficile pour sa mère et pour lui, pas de sécurité sociale. La mendicité, sans doute, pour seul moyen de subvenir à leurs besoins. Une vie difficile qui s'est bien compliquée lorsque la sécheresse est venue et qu'elle a entraîné la famine. Au point, comme nous l'avons vu la dernière fois, qu'au moment où Élie arrive à Sarepta, elle et son fils sont au bout du rouleau. Combien de temps s'est passé depuis l'arrivée d'Élie ? Le texte ne le précise pas. Il dit simplement « après ces événements ». Et que se passe-t-il après ces événements ? Il se passe que le jeune garçon tombe gravement malade et qu'il en meurt. C'est une tragédie. La perte d'un enfant est certainement parmi les pires tragédies qui sont données, qui soient données à l'être humain de vivre. La vie humaine, notre vie, est ponctué de toutes sortes de tragédies, que nous le voulions ou pas, elles sont inéluctables. Tôt ou tard, nous sommes confrontés à une tragédie et certaines nous font mettre le genou à terre. Ça peut être la perte d'un être cher, d'un proche, d'un intime. Ça peut être la maladie qui brise notre corps ou celui d'un proche. Ça peut être la destruction d'une relation intime. Ça peut être la perte d'un emploi et le chômage de longue durée. Ça peut être la précarité. Ça peut être la pandémie. Ça peut être tellement de choses. La réalité, c'est que les tragédies font partie de la vie humaine, car nous vivons dans un monde déchu, dans un monde qui a rejeté Dieu, dans un monde qui subit les conséquences de ce rejet de Dieu. Et pour nous ce matin, la question n'est pas de savoir si les tragédies existent ou pas. La question n'est pas de savoir si elles vont croiser notre route ou pas. La question est celle-ci. Comment faisons-nous face aux tragédies qui croisent notre chemin, qui émaillent notre vie? Comment ferons-nous face à la prochaine tragédie sur notre route? Dans la révolte à Dieu ou dans la confiance à Dieu? Et nous allons voir dans notre texte ce matin deux attitudes différentes qui devrait, je l'espère, nous aider à nous positionner dans ce domaine. Et la première attitude est celle de la mère. C'est notre deuxième point. Je relis le verset 18. « Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Avant de dire quoi que ce soit au sujet de la réaction de la veuve, rappelons tout d'abord que sa vie a été difficile. Sa vie est difficile. Il ne s'agit pas de trouver des excuses, mais simplement de constater que la vie de cette femme a été difficile et, comme on dit, elle n'a pas été épargnée. Mort du mari, mort de celui qui pourvoyait aux besoins de la famille, avec un enfant en bas âge dont il faut bien s'occuper, précarité, voire pauvreté, solitude, peut-être même sans doute rejet des autres, sur le point de mourir quand arrive le prophète, et maintenant la mort de son fils unique. Il y a des vies plus faciles, me semble-t-il, que celles de notre veuve. Et comment réagit-elle ? Notons premièrement qu'elle interpelle Élie. Elle le prend à partie. Elle fait un lien entre ce qui vient de se passer et la présence du prophète. Et elle le rend responsable de la mort de son fils. Elle dit, « Es-tu venu chez moi pour faire mourir mon fils ?» Bien sûr, pour lui rappeler le souvenir de sa faute, mais pour faire mourir mon fils. Et notre veuve ici fait ce que l'être humain sait très bien faire. Et sait très bien faire depuis le commencement, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, à savoir trouver un bouc émissaire, trouver quelqu'un à qui faire porter le chapeau de ce qui m'arrive, trouver quelqu'un que je vais pouvoir accuser de tous les maux, de tous mes maux. Oui, depuis qu'Adam a dit à Dieu, après avoir péché, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et depuis qu'Ève a dit à Dieu, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Depuis ce jour-là, l'être humain, quand il est confronté à des situations difficiles qui le frappent, cherche un responsable, cherche un bouc émissaire. Et c'est ce que fait notre veuve ici. Elle rend Élie responsable de ce qui lui arrive. Es-tu venu pour faire mourir mon fils ? Notons aussi qu'au travers d'Élie, c'est aussi Dieu qu'elle rend responsable. Pourquoi ? Parce qu'elle dit que la présence d'Élie aurait servi à révéler une faute qu'elle aurait commise et sous-entendu que Dieu aurait puni en faisant mourir son fils. Cette dernière attitude, comme la première, est malheureusement assez banale. L'homme rend responsable Dieu de tous ses maux, parfois les autres aussi, et parfois les deux à la fois. Et ce que j'aimerais ajouter ici, c'est que les paroles de cette veuve que nous décortiquons sont les paroles d'une femme dans une extrême souffrance. Et si nous ne les excusons pas, nous pouvons néanmoins les comprendre. Et nous pouvons comprendre que cette femme, à ce moment-là, perd de pied et qu'elle dise ce genre de choses. Ceci dit, si nous pouvons comprendre, il faut aussi dire que par un certain côté, ce n'est pas compréhensible. Pourquoi ? Parce que cette femme a été au bénéfice de la bonté de Dieu depuis qu'Élie est arrivée. Parce qu'elle a expérimenté la bonté de Dieu par ce miracle du renouvellement de la farine et de l'huile. Parce qu'elle et son fils ont été sauvés de la mort par la main du prophète. Et la présence du prophète est synonyme de tout cela. Mais dans sa souffrance, elle a oublié tout cela. Et cet oubli et ce qu'elle dit n'est pas juste, bien évidemment, pour Élie, et n'est pas juste pour Dieu non plus. Et nous pouvons noter ici que ce sont parfois les personnes qui nous sont les plus proches, qui nous blessent le plus, quand elles réagissent de la sorte en oubliant parfois tout ce qui a précédé. Et que dire de cette propension de l'être humain à oublier les bienfaits de Dieu quand il traverse l'épreuve, à accuser Dieu quand vient l'épreuve ? Pourquoi l'être humain rend-il responsable Dieu de toutes les morts qui le bousculent, sans jamais ou très rarement penser à le remercier d'être responsable de la vie qu'il a donnée ? Passons maintenant à la réaction d'Élie. C'est notre troisième point. Et je relis les versets 19 à 21. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis Lot en faisant mourir son fils ?» Il s'étendit trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » La première chose que j'aimerais souligner ici, c'est le silence d'Élie. Le silence d'Élie auprès de la veuve. Le silence d'Élie après ce que la veuve vient de lui dire. Il était facile pour Élie de se défendre. Il était facile pour Élie de se justifier, facile de lui rappeler tout le positif qu'il avait amené dans sa vie. Facile pour lui de lui faire comprendre son ingratitude. Mais le texte n'indique rien de tout cela. La seule chose qu'Élie lui dise, en tout cas nous rapporte le texte, c'est « Donne-moi ton fils ». J'aimerais ajouter ici la difficulté à réagir comme Élie le fait. En tout cas, j'aimerais le souligner. En plus, difficulté multiplié quand, en plus, nous avons agi en obéissance à Dieu. Quand nous avons agi pour servir Dieu. L'injustice est toujours difficile à vivre et parfois encore plus difficile quand elle concerne ce que nous faisons pour le Seigneur et qui est mal compris. Et Élie nous donne ici un bel exemple à suivre. Celui d'éviter les surenchères, celui de savoir choisir le moment pour dire les choses. Et à l'évidence, ce n'était pas le bon moment alors que cette femme pleurait la mort de son fils. Notons quand même qu'il y a des reproches qui peuvent nous être faits, qui sont justifiés. Et nous devons apprendre à les accepter. Notons aussi que parfois, nous devons aussi apprendre à accepter ce qui n'est pas juste, l'accepter sans sortir l'artillerie lourde. Pourquoi ? Parce que nous plaçons l'honneur de Dieu au-dessus de tout, et en particulier au-dessus de notre fierté. Quelle est la réaction d'Élie ? Après avoir gardé le silence devant la veuve, il va ouvrir son cœur devant Dieu. Il va se tourner vers Dieu. Notons que malgré les reproches, la veuve lui confie quand même la dépouille de son fils. Et que fait Élie ? Que dit-il ? Après avoir posé le corps sans vie du jeune garçon sur son lit, il s'adresse à Dieu. Alors ça peut nous paraître comme une évidence. Bien évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Et pourtant, combien de fois cherchons-nous à nous dépatouiller par nous-mêmes pour finalement ne venir à Dieu que quand nous avons épuisé toutes nos cartes, toutes les autres solutions. Élie commence par s'adresser à Dieu. Et il nous donne là aussi un bon exemple à suivre. Et que dit-il ? Verset 20. « Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis Lot, en faisant mourir son fils ?» Comment faut-il comprendre ce qu'Élie dit ici ? Je le résumerai de la manière suivante. Je pense qu'Élie ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il est conscient que Dieu est souverain. Il ne reproche pas à Dieu la mort de cet enfant, mais il ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Ne l'a-t-il pas envoyé vers cette veuve ? Ne l'a-t-il pas fait venir depuis le torrent de Kérit ? Ne les a-t-il pas sauvés, elle et son fils, de la mort par la faim ? Ne s'est-il pas servi d'Élie pour cela ? Élie n'a-t-il pas obéi à Dieu en tout point ? Alors pourquoi tout cela pour en arriver là ? Élie me semble être dans le brouillard. Et on peut le comprendre. Il ne doute pas de la souveraineté de Dieu, mais il ne la comprend pas. Il a beau être un homme de Dieu, un prophète, il ne comprend pas les voies de Dieu. C'est en tout cas comme cela que je comprends ce verset 20. Et chers amis, il peut nous arriver de nous retrouver dans des situations analogues, où nous aussi nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire ou de permettre dans notre vie. Alors que faisons-nous quand cela est le cas? Élie nous laisse un bel exemple à suivre. Il nous laisse l'exemple de celui qui met sa confiance en Dieu malgré son incompréhension. Oui, malgré tout, même s'il ne comprend pas tout, Élie s'en remet à Dieu. Et en s'en remettant à Dieu, il va faire une demande sans précédent. Élie demande à Dieu de ressusciter l'enfant, de le ramener à la vie. Je relis le verset 21. « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Mais comment Élie a-t-il pu penser à demander une telle chose à Dieu? Il faut vraiment comprendre ici que cette demande est non seulement osée, mais elle est sans précédent. Élie n'avait rien sur quoi s'appuyer. Il n'avait pas le manuel du bon petit prophète où il est dit à la page 54, devant la mort d'un enfant, demander à Dieu de le ressusciter. Non. Et puis, il n'y avait jamais eu de résurrection. Mais d'où lui vient cette idée? Notons ici qu'Élisée, son successeur, va aussi être le vecteur d'une résurrection, celle du fils de la Tsunamite. Mais Élisée, il a eu le précédent d'Élie. Il a eu l'exemple d'Élie. C'est pas la même chose. Élie ici montre une foi incroyable, suscité par Dieu à n'en pas douter, mais incroyable quand même. Et si la foi d'Élie est remarquable, ce que je trouve aussi remarquable, c'est son attitude. Pourquoi? Parce que tout cela, tout ce que nous venons de dire, Élie va faire cette demande dans ce contexte que nous avons essayé d'expliquer, dans les circonstances que nous avons décrites, c'est-à-dire malgré son incompréhension, Élie demande à Dieu de faire ce miracle incroyable. Et c'est cette confiance en Dieu, malgré tout ce qui est contraire, malgré tout ce qui est incompréhensible, qui me semble vraiment remarquable ici et digne d'imitation. Concernant le geste d'Élie qui se couche à trois reprises sur l'enfant, si vous attendez que je vous explique ce que ça veut dire, eh ben, je suis désolé, mais je n'ai rien trouvé de très concluant sur le sujet. Il me semble qu'il faut rester à la conclusion pour l'instant qu'on ne sait pas vraiment l'explication de ce geste. Ce qu'on sait, c'est que les prophètes, parfois, agissaient de manière symbolique, faisait des actions symboliques, et beaucoup pensent que c'est le cas ici, sans doute. On peut noter qu'il y aura deux autres cas dans l'Écriture. Élisée va agir de la même manière, et puis l'apôtre Paul dans Acte 20. Mais bon, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et on ne sait pas vraiment la signification de ce geste. Passons à la réponse de Dieu. C'est notre quatrième point. Quelle est la réponse de Dieu? Et je relis le verset 22. « L'Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. » Dieu exauce la prière d'Élie. Et nous avons ici la première résurrection de la Bible. Notons, et c'est symboliquement très fort, que cette première résurrection concerne un païen. c'est-à-dire un non-juif, quelqu'un qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Comme le dira l'apôtre Paul bien plus tard, dans Romains 3, au chapitre 3, verset 29, « Dieu est aussi le Dieu des païens. » Je lis, « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera, en vertu de la foi, les circoncis et au moyen de la foi, les incirconcis. » Dieu n'est pas juste le Dieu ou seulement le Dieu des Juifs, même s'il en a fait son peuple de l'Ancienne Alliance, il est le Dieu de tous. Et nous en sommes très reconnaissants, parce que sinon nous ne serions pas là ce matin. Souvenons-nous que dès le départ, le plan de Dieu était que toutes les familles de la terre soient bénies au travers d'Abraham, le père de la foi. Et ce que Dieu réalise ici, en terre de Phénicie, se situe dans cette ligne-là. Donc, Dieu exauce la prière d'Élie. Et c'est bien cela qui ramène l'enfant à la vie, et surtout pas le geste qu'Élie a accompli. Dieu s'est servi de la prière d'Élie qu'il a suscitée et qu'il a choisi d'exaucer. Et le geste d'Élie ne peut être que symbolique. Dieu redonne la vie au jeune garçon. Et cela nous rappelle qu'il est le Dieu de la vie et qu'il est aussi le Dieu de l'impossible. Et à ce sujet, le prophète Jérémie s'émerveillera devant la création des cieux et de la terre en disant « Rien n'est étonnant de la part de Dieu ». Et plus tard, dans son évangile, Luc rapportera les paroles de l'ange à Marie au sujet de la naissance virginale de Jésus en disant « Rien n'est impossible à Dieu ». Une affirmation que Jésus va reprendre plus tard en parlant du salut qu'il est impossible aux hommes de produire. Et il dira « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Oui, notre Dieu est le Dieu de l'impossible, celui qui fait des prodiges étonnants, qui ne le sont finalement pas vraiment, puisqu'il est le Dieu de l'impossible. Ceci dit, attention à ne pas glisser ici vers la compréhension que Dieu devrait toujours agir de la sorte et répondre de la sorte à nos prières. Oui, Dieu nous invite à faire connaître nos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Mais au final, c'est sa volonté qui s'accomplit, pas la nôtre. Sa volonté qui, bien sûr, vise toujours notre bien éternel, sa volonté qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Mais attention donc à ne pas tomber dans l'utopie de croire que si nous avons suffisamment de foi, alors Dieu fera toujours l'impossible pour nous. Nous passons à notre cinquième point, le témoignage de la veuve. Après le retour à la vie de l'enfant, Élie descend, confie l'enfant à sa mère. Et on peut imaginez la joie qui a été la sienne. Et c'est à ce moment-là que notre texte nous rapporte une autre parole de la veuve. C'est une parole de témoignage et c'est notre cinquième point. Je relis le verset 24. « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » On pourrait aussi traduire ici « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu est vraiment dans ta bouche. » Les deux sont vrais de toute façon. Et ce que notre veuve dit ici est un beau témoignage de foi, un beau témoignage de foi qui contraste tellement avec l'incrédulité d'Israël à ce moment-là, dans le royaume du Nord. Un beau témoignage de foi parce que la foi de notre veuve a été fortifiée. Elle a été débarrassée de certaines scories par l'épreuve. Et je fais ici bien évidemment allusion au texte de 1 Pierre que vous connaissez sans doute, 1 Pierre 1, versets 6 et 7. « Vous en tressaillez d'allégresse, dit-il, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Dieu se sert parfois de l'épreuve pour nous faire grandir dans la foi, pour affermir notre foi et pour la débarrasser de tout ce qui vient de la chair, à l'instar des cories qui sont brûlées quand l'or est purifié par le feu. Et dans quel but est-ce que Dieu agit de la sorte? Notre texte nous dit « afin que notre foi se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ », c'est-à-dire pour que notre foi soit à la gloire de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là qui se passe ici. Notre veuve reconnaît la main de Dieu, là où elle ne la voyait pas ou là où elle ne la voyait plus. Alors vous allez me dire que c'est assez facile à faire quand un tel miracle s'est produit, certainement, sans doute. Mais le vrai défi n'est pas de reconnaître la main de Dieu directement après l'exaucement de nos prières. C'est vrai que ça, c'est assez facile. Mais de reconnaître la main de Dieu quand il n'y a pas eu d'exaucement, ou quand il n'y a pas eu l'exaucement que nous espérions. Voilà un des vrais défis de notre foi. Reconnaître que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Encore une remarque pour souligner le rôle important qu'a eu Élie dans le témoignage de la veuve. En effet, on peut se demander ce qui se serait passé si Élie lui avait dit ces quatre vérités au moment où elle l'accusait de la mort de son fils. Que se serait-il passé si Élie, dans son incompréhension des voies de Dieu, s'était éloigné de Dieu ? Et cela nous rappelle combien nous devons veiller en particulier à notre témoignage en tant qu'enfants de Dieu, combien nous devons veiller à nos paroles et à nos actes. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, alors on nous regarde, on nous observe. Et que nous le voulions ou pas, notre témoignage en paroles ou en actes joue un rôle dans le positionnement de la foi, dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça en fait partie. Alors que Dieu nous accorde la grâce de toujours porter du bon fruit, que Dieu nous accorde la grâce d'avoir un bon témoignage, de savoir nous taire quand cela est nécessaire et parler quand il le faut, que Dieu nous garde surtout du contre-témoignage. Que Dieu nous garde d'être une pierre d'achoppement pour celles et ceux qui sont autour de nous, qui nous observent. Attention aussi à ne pas forcer notre témoignage. En affirmant par exemple des choses qui ne sont pas vraies ou pas complètement vraies, des choses qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas dans nos mains, des choses que l'Écriture n'affirme pas. Un texte comme le nôtre pourrait, par exemple, facilement nous amener à proclamer les miracles comme la certitude de la prière de la foi. Si j'ai la foi, égale miracle. Proclamer, par exemple, que Dieu guérit toujours celui qui prie avec foi. Il m'est arrivé quand même pas mal de fois d'entendre cela devant quelqu'un qui était malade. Et pourtant, la personne est morte, malgré les prières, parfois péremptoire de certains. Bien sûr, ceux qui affirment ces choses diront ensuite que celui qui a prié ou le malade n'avait pas assez de foi. Mais la réalité, c'est que de telles affirmations sont des contre-témoignages et qu'elles éloignent de Dieu celles et ceux qui les entendent, qui les écoutent et qui les voient. Nous devons venir avec assurance au pied du trône de la grâce pour trouver un secours qui est toujours opportun. Nous devons faire connaître à Dieu nos demandes. Nous devons nous décharger sur lui de tous nos soucis. Oui, 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 mais nous devons le faire avec humilité. Pourquoi ? Parce que Dieu ne nous doit rien, ça c'est la première raison. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander à Dieu, ça peut être une deuxième raison. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu n'est pas forcément la nôtre, ou la nôtre n'est pas forcément celle de Dieu. Ça, c'est une troisième raison. Et puis, on pourrait ajouter, parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours la guérison miraculeuse. Non, Dieu ne guérit pas toujours, en tout cas pas ici-bas. Oui, dans l'éternité, nous serons tous guéris, à jamais. Ça, c'est la vérité. Mais ici-bas, non. Et ceux qui l'affirment mentent. Ceux qui l'affirment font porter un lourd poids de culpabilité à celles et ceux qu'ils accusent ensuite de manquer de foi, à l'instar des pharisiens dans les évangiles qui liaient des fardeaux pesants et les mettaient sur les épaules des hommes, dit Matthieu 23. Attention donc à notre témoignage. Attention donc à nos affirmations et que Dieu nous fasse la grâce de toujours plus d'humilité devant lui et devant les hommes. Avant de dire quelques mots de conclusion, j'aimerais juste encore dire que le témoignage de la veuve a dû être un puissant encouragement pour Élie. Élie, si ma lecture est bonne, qui était quand même un peu dans le brouillard, Élie qui a fait ici le plein de confiance en Dieu, dont il va avoir grandement besoin dans la prochaine étape de son ministère. Je conclue rapidement, brièvement, et je reviens à la question qui est celle que j'aimerais laisser devant nous ce matin. Comment réagissons-nous face aux tragédies et aux épreuves inéluctables de notre vie ? Comment réagissons-nous ? Cherchons-nous systématiquement un responsable, un bouc émissaire, Dieu, les autres, l'État ou qui sais-je ? Nous arrive-t-il d'accuser Dieu ? Nous arrive-t-il de penser que Dieu nous punit ? Ou alors, par la grâce de Dieu, restons-nous dans la confiance ? Dans la confiance en Dieu, même quand nous ne comprenons pas tout. Et je crois qu'Élie nous laisse un bel exemple à méditer dans notre passage. Un exemple où il y a, oui, du miraculeux, mais aussi pas mal de terre à terre. Et nous avons vu qu'Élie n'était pas rempli que de certitudes. Et pourtant, malgré ses incompréhensions, nous l'avons vu continuer à mettre sa confiance en Dieu. Et c'est certainement un des défis les plus importants et les plus difficiles de notre marche par la foi. Faire confiance à Dieu dans l'épreuve. Je ne parle pas du petit bobo, hein. Je parle de tragédies, de choses difficiles à vivre. Faire confiance à Dieu dans l'épreuve. Continuer à faire confiance à Dieu, malgré des circonstances contraires, malgré les questions sans réponse qui demeurent, malgré tout. Il se peut que Dieu nous délivre quand nous le lui demandons, ou qu'il délivre la personne pour laquelle nous prions. Il le fait de nombreuses fois. Il se peut aussi qu'il nous dise, comme il l'a dit à l'apôtre Paul, qui avait prié 3 fois pour que Dieu enlève cette écharpe dans la chair, « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. » Oui, parfois, marcher par la foi, c'est se contenter de la grâce de Dieu pour résister dans l'épreuve. Une grâce qui, cependant, est toujours suffisante. Quoi qu'il en soit, si Dieu délivre, qu'il soit loué. Et s'il ne délivre pas, qu'il soit aussi loué. Car sa grâce est toujours suffisante. Car jamais il ne nous abandonne. Car toujours il est à nos côtés. Puissions-nous nous en souvenir, toujours au jour de l'adversité. Et que par la grâce de Dieu, nous puissions rester dans la confiance, quelle que soit la hauteur des vagues qui nous submergent. Dans le prophète Ésaïe, nous trouvons ce beau texte qui s'adresse à Israël, mais que nous pouvons prendre pour nous parce que nous sommes aussi le peuple de Dieu. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen.